Bonjour, c'est Cédric Engon. Pour Cédric du Sport, on a un invité exceptionnel cette semaine. De temps en temps, on essaye de parler des arts martiaux, des sports de combat, de UFC, de MMA. Et là, justement, on a, et ça, je cherchais, entre autres, des athlètes comme lui en cette année olympique. Mais là, on va parler surtout avec lui de boxe, parce que c'est le noble art. C'est pas le sport le plus suivi au Canada, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de Canadiens qui s'y intéressent justement et beaucoup d'Africains et d'Européens qui s'y intéressent cette semaine avec plusieurs combats qui vont marquer l'actualité avec entre autres le combat le jeudi 7 mars de Cédric Doumbé contre Baki. Il y aura aussi le combat de Anthony Joshua contre Francis Ganou et d'autres événements comme ça. Et pour cela, on a le plaisir de parler aujourd'hui avec Stéphane. Stéphane, est-ce que vous pouvez vous présenter pour les auditeurs de Cédric du Sport sur Choc FM, la radio francophone de Toronto?
Oui, Cédric, merci infiniment m'avoir permis de vous rencontrer aujourd'hui pour parler de sport. Mon nom est Stéphane Malénou, je suis ancien membre de l'équipe nationale du Cameroun de boxe et boxeur professionnel, ex-champion de France international. J'ai aussi évolué aux États-Unis quelques années afin ensuite de revenir du côté du Canada.
Ok,
C'est là où je suis actuellement.
donc Stéphane a précisé que il est à Montréal alors que nous ici Choc FM nous sommes à Toronto. Et donc Stéphane, vous êtes bon, on est d'origine africaine, on est même voisins. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle a été l'origine de l'amour pour la boxe? Parce que le Cameroun, qu'on appelle le continent, c'est le pays plutôt du football et puis un peu de basket, plutôt les sports de balle. Mais pourquoi cette tournée vers la boxe?
Je pense que j'étais influencé par un aîné dans le quartier. D'abord, très jeune, j'étais très actif comme garçon. J'avais toujours tendance à me dépasser et être en concurrence avec les autres, mes camarades, relativement à l'école, au primaire et même dans le voisinage. J'ai eu la chance de rencontrer un aîné, un grand frère, Félix Camille Tchatchoua, qui était lui aussi boxeur camerounais, qui était, je crois, si je ne me trompe pas à l'époque, un peu peut-être champion du centre à l'époque, champion du centre, et puis quelquefois sélectionné avec l'équipe nationale de boxe. Le voyant s'entraîner, c'était toujours quelque chose pour moi de très impressionnant, et j'ai voulu tester le sport, le métier.
Ok, ça c'était à quel âge?
J'avais 10 ans à peu près.
Ok, il n'y avait personne dans votre famille qui pratiquait la boxe ou même parmi vos amis, des gens qui pratiquaient déjà la boxe avant ça?
Aucun membre de ma famille n'avait déjà été pratiquer de la boxe, mais j'avais un aîné, François Zadier, qui faisait un peu de judo. Il était inscrit à l'INGS, le centre de sport de la performance au Cameroun. L'INGS, la jeunesse et les sports. Et c'était le seul qui faisait un peu le judo, et non, en parallèle 2 à 3 fois par semaine, mais sans plus.
C'est intéressant parce qu'en plus, l'Institut national de la jeunesse et des sports, on l'appelle du même nom dans mon pays d'origine, le Gabon. Ok, donc dès le départ, est-ce que ça a été difficile? Est-ce qu'il y a par exemple eu des obstacles? Par exemple, votre maman, j'imagine qu'elle aurait dit non, 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 moi je veux pas que on aille te taper là-bas. Est-ce que c'est des choses comme ça qui se sont passées au début?
C'était très très difficile pour ma famille d'accepter que j'ai choisi ce sport. Donc j'allais souvent m'entraîner avec Félix Camille Tchatchoua à l'Institut national de la jeunesse des sports, et je prenais beaucoup de plaisir là-bas. Ça me permettait de me défouler. La boxe était vraiment un refuge pour moi. Quand je retournais à la maison, c'était souvent les plaintes de parents, de frères ou sœurs qui disaient que j'allais faire de la boxe. La pratique de la boxe, que c'était dangereux pour moi. Ma famille n'acceptait pas cela.
Et pour globalement, comment ça s'est passé maintenant niveau carrière? Comment vous avez fait pour avoir les équipements? Parce que j'imagine qu'au Cameroun, comme dans mon pays là, le Gabon, c'était peut-être pas facile d'avoir tout de suite tout ce qu'il faut là. Déjà, je sais qu'au niveau amateur, faut avoir des équipements, des genres de comment on appelle ça? Pas des casques, mais comme des trucs pour protéger la tête. Et puis les gants de boxe, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'est pas tout le monde qui porte les mêmes gants. Et puis les gants doivent être adaptés aussi à la morphologie. Comment vous avez fait pour pouvoir à ce niveau-là, pour pouvoir se procurer les équipements?
À l'INGS avait déjà tout le dispositif. Ils avaient des gants, des casques, et les protège-dents, il fallait s'en protéger, s'en procurer les protège-dents. Très souvent, c'était un entraîneur, peut-être qui t'apprécie, va te donner un protège-dents. Des coéquipiers qui étaient internationaux, qui vont peut-être te passer un casque. Ou une paire de gants de boxe qu'il a déjà utilisé. Donc en fait, c'était toujours du matériel usagé. On se débrouillait avec, on se débrouillait avec. Ou alors, quand tu allais au supermarché, tu voyais ça aussi en vente, pré-emporté, le prêt-à-porter. Voilà, prêt-à-porter au marché. Tu pouvais t'en procurer aussi une paire de gants de boxe ou un casque ou un protège sexe. Ils appelaient une coquille
Ah, la
protège sexe.
coquille, ouais, effectivement.
Oui.
Qu'on utilise
Usagé
dans tous les sports de
dans vente.
combat. Ok, maintenant niveau carrière, comment ça s'est passé? Parce que je vois il y a eu un long parcours, déjà en commençant par le Cameroun, en passant par la France, puis les États-Unis, puis le Canada. J'ai noté que vous avez été le plus jeune, je pense, de l'équipe du Cameroun pendant un certain moment. Il y a eu aussi une bonne carrière en France. Et puis, ça va nous mener au fait que vous avez fait une très, très grande rencontre. Et c'est dans l'un des athlètes, l'un des boxeurs dont on va parler, Cédric Doumbé. Mais pour vous-même, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez pu, par exemple, aller aux Jeux Olympiques ou faire les championnats d'Afrique ou de France? Comment ça s'est passé?
En fait, d'abord, au Cameroun, j'ai eu la difficulté de m'en sortir en tant que boxeur parce que, bien vu, comme on a dit au départ, c'est que c'était pas accepté par ma famille. Donc, c'était difficile pour moi de devenir boxeur. Donc, j'ai dû forcer. J'ai forcé pour aller à l'entraînement à chaque jour. C'était un combat avec ma famille pour aller m'entraîner. Donc, lorsque je rentrais de l'école, il fallait que j'aille m'entraîner. Ma famille le concevait très mal, et puis surtout qu'on terminait les entraînements un peu tard. Les entraînements se terminaient aux alentours de 20h30, 21h. Donc le temps que je rentre à la maison pour manger, me reposer, c'était assez difficile. Alors je me suis consacré à ça à fond. Parce que je voulais prouver à ma famille que c'était possible de devenir boxeur malgré mon âge, malgré mon âge, d'avoir des ambitions. J'avais des ambitions. Et je voulais être champion du Cameroun. J'avais des aînés au Cameroun qui étaient des champions aussi à l'époque, comme Paul Bongo, qui était aux Jeux Olympiques d'Atlanta en 96. On entendait parler des grands champions comme Atanga Namboines. Lui aussi, c'est un très grand champion qui a été aussi à Atlanta aux Jeux Olympiques en 96. C'est des grands noms de la boxe au Cameroun. C'était des aînés qu'on rencontrait souvent au camp à notre club de boxe, à l'INGS. On avait Bekone Georges, paix à son âme, il est décédé l'année dernière. Ça nous inspirait, ça m'inspirait énormément. Donc j'ai sacrifié ma vie pour ça. J'ai dû m'entraîner fort. Et grâce à mes performances, j'ai eu la chance d'être champion du Cameroun.
Ok.
Alors,
En
parce
quelle
que j'étais
année
champion
ça?
du Cameroun. Comment?
En quelle année? Dans quelle catégorie?
J'étais champion du Cameroun des poids plumes.
Ok.
Et donc c'est ça qui m'a permis d'avoir qui a permis en sorte que la fédération mette un peu l'œil sur moi. Et à ce moment-là, j'ai eu cette bourse de coopération française qui me permettait d'avoir un petit peu d'argent pour subvenir à mes besoins, pour pouvoir acheter mes équipements et le transport pour aller à l'entraînement.
Ok, ça c'est bien ça. Très très bien,
Exactement.
félicitations. Parce que j'imagine, bon, moi j'ai jamais fait de sport de combat, à part un petit peu de judo, mais faire les sports de combat en Afrique, ça paye pas souvent, hein, sauf quand on arrive à un certain niveau, et encore, on a vu que pas mal, par exemple, il y a pas mal, notamment des boxeurs camerounais ou d'Afrique de l'Ouest qui allaient souvent s'exiler aux États-Unis. J'en ai même vu qui sont allés en Australie pour pouvoir gagner leur vie avec ça. Maintenant, qu'est-ce qui a causé, disons, parce qu'on va devoir avancer là, qu'est-ce qui a causé le passage vers la France, justement, et la décision de laisser l'équipe du Cameroun?
Alors, moi, c'est comment je vais dire, c'est en fait le Cameroun, l'Afrique en général, j'ai le pressentiment que l'Afrique n'investit pas suffisamment pour les leaders. que ce soit dans le domaine sportif ou ailleurs. Moi, étant jeune, j'avais observé un petit peu, hormis mes performances en entraînement, mes dirigeants n'avaient rien à foutre de mes résultats scolaires. Moi, je voulais aller à l'école. Je voulais pas être un boxeur illettré.
Ça, c'était à quel âge à peu près?
Lorsque j'avais 15, 16 ans,
Ah, ok,
16 ans,
adolescent.
16 ans, 98, 99, et je voyais que j'avais des difficultés sur le plan scolaire parce que le volume d'entraînement que je mettais sur moi était tellement lourd et c'était difficile de récupérer, aller à l'école. J'étais dans un établissement déjà loin de chez moi, de mon quartier. Et cet établissement, c'était l'enseignement technique. C'était tellement difficile pour moi de déjà partir tous les jours, faire se lever tôt, aller en cours et rentrer ensuite pour aller faire du sport. C'était vraiment très difficile. Alors, j'ai demandé à mes encadreurs s'ils pouvaient m'aider, s'ils pouvaient m'aider à trouver un établissement proche. Quitte à abandonner l'enseignement technique et me retrouver enseignement général, j'étais prêt à faire cela pour la boxe. Donc c'était vraiment difficile. Et lorsque j'avais demandé à l'un de nos encadreurs d'essayer de voir s'il y avait des possibilités pour cette option-là, il est revenu avec une réponse négative parce qu'il a essayé quand même. Ça n'a pas marché. Alors, il y avait un établissement qui s'appelait le lycée général Leclerc. Cet établissement était collé à l'Institut national de la jeunesse et des sports. C'est un établissement de prestige au Cameroun. C'est l'un des plus grands établissements d'Afrique centrale, le lycée général Leclerc. Et donc, pour moi, je convoitais cet établissement-là parce que je trouvais que c'était un établissement qui favorisait les sportifs. Étant donné que la boxe ne faisait pas partie des jeux scolaires, j'ai dû aller me présenter parce que je savais que j'avais confiance en moi, j'allais me présenter à la direction des sports de l'établissement. Et j'ai placé ma candidature et c'est passé. Ils m'ont accepté, malgré que la boxe ne faisait pas partie des sports scolaires comme les jeux scolaires, ils appelaient la FENASCO, les jeux FENASCO. Alors, c'était un combat aussi que je peux pas m'en nier que ça m'a énormément aidé. Ça m'a énormément aidé sur le plan moral, psychologique aussi. Parce que étant juste boxeur en Afrique, ou footballeur, peu importe le sport, sans avoir un bagage intellectuel,
Et
c'est classé dans ce cas. Comment?
justement, comment entre la transition entre cet établissement scolaire et la France, là, comment ça s'est fait? Est-ce que c'était, même s'il faut pas relever des choses trop personnelles, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous avez dit, bon, c'est mieux en France plutôt que de rester au Cameroun?
Alors, je vais venir à ça. Je vais venir à ça. Voilà, ce qui m'a fait partir du Cameroun et décider de continuer ma carrière, c'est parce que j'ai eu l'opportunité d'aller préparer les Jeux Olympiques avec une compétition, championnat du monde au Kazakhstan.
Ah ouais, ok.
Et c'était pour la préparation des Jeux Olympiques de Athènes
Ok,
de
Athènes
2004.
c'est 2000, je pense.
Donc, en 2002, je suis parti au Kazakhstan. C'était bien après 2000.
Ok.
Je commençais déjà à faire parler de moi en
À
2000 au
2004,
Cameroun,
plutôt.
en boxe. On parlait déjà de moi à la radio assez régulièrement quand on parlait de boxe. Et on parlait des meilleurs boxeurs, des futurs meilleurs, des talents en boxe. Mon nom figurait toujours dans la liste des boxeurs talentueux. Mais en 2002, lorsque j'ai eu la possibilité de partir, me préparer pour. C'était, comme on dit, une compétition qui allait me préparatoire. Pour les Jeux Olympiques de 2004, les championnats du monde, donc au retour, j'ai décidé de rester en Europe pour évoluer justement dans les meilleures conditions. Voilà. Donc j'avais la chance pour moi de partir en France en tenant compte que si j'avais une bourse française, une compensation française qui me permettait d'avoir un peu d'argent et m'en sortir au Cameroun en tant qu'athlète, je me disais peut-être qu'en Europe, j'aurais une meilleure opportunité, peut-être sur le plan scolaire aussi, peut-être avoir des avantages là-dessus. Je pense que je cherchais plus à avoir un meilleur encadrement. C'est ce qui m'a fait quitter l'équipe nationale
Ok, ça c'est très bien. De toute façon, c'est le parcours d'un homme, hein. Hey, on est africain, justement, à un moment donné dans la vie, il faut prendre des décisions. Et puis voilà, vous avez atterri quelques années plus tard entre les États-Unis et le Canada. En tout cas, félicitations pour ce beau parcours-là. Avant qu'on parle de l'actualité, c'est-à-dire les grands combats qui vont avoir lieu entre le jeudi, le vendredi et le week-end, est-ce que vous pouvez nous décrire dans votre carrière des grandes personnalités du boxe, de la boxe professionnelle que vous avez rencontrée? Et quel est votre regard en général, comme ça, en quelques mots, sur comment la boxe professionnelle elle est en ce moment?
La boxe a changé. La boxe a changé. Aujourd'hui, c'est plus les influenceurs qui ont le monopole de ce sport.
C'est malheureux d'ailleurs, ça.
Je dis non, c'est. Mais en fait, les médias ont toujours eu un grand impact dans la société. On peut pas vraiment nier ça. C'est-à-dire que si vous avez une chaîne de télé qui vous suit, malgré. Même avant, bien avant les réseaux sociaux, vous avez une chaîne de télé qui vous suit. Dans le sport, vous réussissez.
Et ça, c'est ce
C'est
qu'on a
prouvé.
vu.
Ça accroît votre popularité. Aujourd'hui, si vous me demandez qui est le boxeur, le plus grand boxeur que j'ai rencontré, c'est Mike Tyson.
Mike Tyson, Mike
Floyd.
T, Iron. Ok. Et ça, c'était en quelle année?
Floyd Mayweather, 2014.
Ah ouais, ok.
Floyd Mayweather, voilà. Floyd Mayweather, Sugar Ray Leonard.
Ah
Je suis
ouais,
assis à ses côtés, on a
du beau
mangé
monde.
ensemble.
Ok, oui, ben.
J'ai rencontré Evander Holyfield, j'ai
Oh.
rencontré Knox Lewis, j'ai rencontré Manuel Pied, la main de pierre,
Ah ouais.
Robert Duran,
Ok. Eh ben,
Robert Duran,
du beau
Manny
monde, hein.
Machado. Comment?
Du beau monde. Ah ouais. Ok.
Oui, Mike Machado.
Ah ben, waouh, c'est fort, c'est impressionnant. J'espère qu'on pourra voir justement, lorsqu'on va poster tout cela, si vous avez des images ensemble, ce serait aussi
Oui,
apprécié, en
j'ai
plus
pas
des
quelques-uns.
vôtres. C'est franchement félicitations là. J'espère qu'en plus, ce que j'ai pas dit, puisque on est sur Cédric du sport, on est avec un interview avec Stéphane qui est ancien boxeur professionnel et qui est maintenant coach de boxe à Montréal et on le remercie d'être avec nous. C'est que Stéphane est entraîneur, coach de boxe maintenant dans la région de Montréal. Il va nous dire un petit mot à la fin là-dessus. Maintenant, la rencontre avec Cédric Doumbé. Est-ce qu'il est devenu? Comment ça s'est passé? Et qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il est maintenant? On dit de lui que non seulement c'est un athlète talentueux, mais c'est aussi le plus grand trash talker dans le boxe professionnel. C'est en quelque sorte l'équivalent du petit Irlandais, là. Comment il s'appelle? Celui qui fait beaucoup.
McGregor,
Voilà,
d'accord.
McGregor, que personnellement je n'aime pas beaucoup. Qu'est-ce que vous pensez de ça, de son niveau en tant qu'athlète? Comment vous l'avez rencontré et qu'est-ce que vous pensez de son niveau et ses chances par rapport à Baki pour le combat de ce week-end?
C'est un boxeur exceptionnel. C'est un boxeur exceptionnel que j'ai rencontré en 2017 à Paris. Dans un club, mon ancien club. Qui s'appelle Levallois, le club de Levallois. Alors, je pense que vous avez déjà entendu parler de moi, ce qui venait d'arriver d'Angoulême, de la province de France, pour s'installer à Paris. Donc, lorsqu'il a posé ses valises à Levallois, on lui a parlé de moi, on lui a dit, il y a un ancien Camerounais, un boxeur comme toi ici, qui était là avant, etc. Alors, il savait qui j'étais. Donc, nous nous sommes rencontrés là-bas à Levallois. Et c'est à ce moment-là qu'on a eu la chance d'échanger, puis il m'a parlé de ses problèmes, de ses objectifs et tout. Les difficultés pour lui, pour s'intégrer, et puis il avait souhaité que je lui apporte mon soutien.
Ok, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qu'il est devenu? Sa montée, c'est maintenant. Hey, c'est probablement l'un des numéros 3. Enfin, quand j'ai dit numéro 3, c'est-à-dire l'un des trois boxeurs les plus connus au monde, en tout cas dans le monde francophone. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Et puis, niveau personnalité aussi, pas simplement en tant que champion.
Je n'ai pas vraiment surpris de ça parce que j'ai toujours cru en lui. C'est un garçon avec qui on a passé beaucoup de temps ensemble. Nous nous sommes entraînés plusieurs fois ensemble. J'ai essayé de lui apporter mon soutien aussi, comme je pouvais. Je ne suis pas surpris. Je suis vraiment pas surpris. Je pense que ce qu'il fait aujourd'hui, c'est ce que j'ai toujours cru qu'il allait faire. J'ai toujours pensé ça, que Cédric allait briller. C'est un garçon qui a plein de potentiel. Et aujourd'hui, il est rendu où il est parce qu'il travaille fort pour ça.
Mais niveau Pardon, mais niveau personnalité, est-ce qu'il a toujours été comme ça? Parce que il est quand même très 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 provocateur, hein, ce monsieur.
Non, ce qu'il dit, il pense. Aujourd'hui, il rigole. Aujourd'hui, il en rigole parce qu'il se sert de la psychologie, mais il pense. C'est un garçon comme ça. Quand il veut quelque chose, il va tout faire pour l'avoir. Et non, il a ce qu'on appelle, comment je veux dire, un ascendant psychologique toujours très avancé comparativement à ses adversaires. C'est sa force de frappe aussi.
Mais est-ce que cela ne peut pas se retourner contre lui à un moment donné? Par exemple, on a vu la grosse campagne de communication qu'il a faite contre son dernier adversaire, c'était Jordan, je pense. Même s'il a prouvé, ok, comme on dit en anglais, do the talk and walk the walk, il a vraiment prouvé tout ce qu'il avait annoncé. Mais est-ce que ça ne peut pas se retourner contre lui? Parce que je vois par exemple le profil de Baki. Ah, il m'a l'air d'un ours qui vient tout droit de Sibérie. Peut-être qu'il lui réserve des surprises là.
C'est lui qui est l'un des rares boxeurs en France qui ne vit que de ça. Il dort, il mange, il s'entraîne à la boxe. D'accord? C'est un garçon qui donne tout pour la boxe. Donc, tout ce qu'il a fait, c'est se lever, faire ça. Mais pas beaucoup de boxeurs pourraient être capables de vivre comme Cédric en France grâce à la boxe. Donc,
Ok.
il a déjà un gros.
Si je peux me permettre une petite parenthèse, et vous n'êtes pas obligé de commenter si vous sentez gêné par rapport à ça, est-ce que c'est quelque chose qui a manqué, par exemple, à Tony Yoka pour réussir?
Rien n'a manqué à Tony. Tony avait tout. Je connais Tony depuis les amateurs à l'INSEP, l'équipe de France. Je me suis entraîné avec eux plusieurs fois. On se connaît très bien. Ce qui a gâché la carrière de Tony, c'est, je pense, l'environnement.
C'est-à-dire.
L'environnement. Souvent, je pense, quand on a grandi, déjà la boxe amateur, la boxe professionnelle, c'est complètement différent.
Ah oui, beaucoup de
C'est
gens ne le
complètement
savent pas.
différent. D'accord? Pour être boxeur professionnel et espérer gagner sa vie de ça, il faut, comment je veux dire, c'est un mind que tu dois shift, tu dois rechanger ton mind, tes idées d'amateur. Il est resté beaucoup trop longtemps un amateur, Tony Yoka, beaucoup trop longtemps. Maintenant, le passage entre amateur et professionnel, ça prend du temps. Pour son développement, je pense qu'il n'a pas eu assez de temps pour se développer. On lui a donné des adversaires. Je pense qu'il a parlé aussi trop vite. Trop vite. Je pense que, comment je veux dire, c'est beaucoup trop mis la pression.
Ok.
Mais c'est beaucoup trop mis la pression. S'il faisait son bout de chemin doucement, avec des petits adversaires plus développés comme Cédric aujourd'hui, Cédric parle, mais les adversaires qu'on lui donne ne sont pas à sa hauteur. Aucun d'entre eux n'a jamais été champion du monde de kickboxing. Aucun autre parmi ses adversaires. Jamais. Déjà, le kickboxing, c'est les pieds et les mains. C'est déjà un gros avantage en MMA. Quand tu sais t'en servir. Tu vois? Donc, c'est dit qu'aujourd'hui, il réussit avec son trash talk parce qu'on lui donne des adversaires qui ne sont pas à sa hauteur. Il peut faire ce qu'il veut. Il peut dire des choses. Il va le faire parce que ce n'est pas des boxeurs qui sont autant ambitieux que lui.
D'accord.
Il est très ambitieux. Il est beaucoup plus ambitieux que ses adversaires. Tony Oka, on lui a donné Bakole, le Congolais. Je ne sais pas qui a fait ce matchmaking-là, mais Bakole, c'est un os déjà très, très, très mûr.
Ah ouais, un ours, hein?
Oui, il est déjà beaucoup plus développé. Et c'est cela qui a cassé encore. Quand il a perdu face à Bakole, il ne pouvait pas venir boxer Takam. Ça fait trop d'années.
Ah
Takam,
ouais,
est un
effectivement.
professionnel. Il fallait qu'on lui donne un adversaire beaucoup moins
Compétitif.
fort que ça, moins lourd même que ça.
Ok.
Il n'a pas encore le stature pour affronter ces cadors-là, ces boxeurs d'expérience. Tu vois?
Il nous reste environ 3 minutes dans cette interview-là et je rappelle que c'est Cédric Ngon de Cédric du Sport avec Stéphane, entraîneur d'origine camerounaise qui est à Montréal et on le remercie d'être avec nous. Pour les 3 dernières minutes, on va dire un mot sur Ngannou. Ngannou, c'est une trajectoire un peu particulière, hein. C'est quelqu'un qui a attendu très 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 longtemps pour percer au haut niveau, qui est ensuite allé vers, si je me rappelle bien, vers le MMA. Et puis, bon, il s'est senti dans des conditions où il ne pouvait pas profiter au mieux de son potentiel. Et c'est comme ça qu'il s'est tourné vers la boxe. Et là, maintenant, il explose. Il a quasiment le titre de l'homme le plus fort du monde. Deux questions. Est-ce que la montée de Ngannou vous surprend? Est-ce qu'il peut durer dans ce domaine-là? Et la dernière question, qu'est-ce qu'il y a dans l'eau du Cameroun pour qu'il y ait autant de champions?
C'est l'état d'esprit.
Ok.
L'esprit de lion, indomptable.
Et Lion indomptable, comme on le dit. Ok, mais
Donc,
Ngannou.
vraiment, un belief de Bali Kanachi. Donc,
Absolument.
si tu es conscient d'être un lion, tu peux gagner, peu importe tes origines.
Ok.
Donc,
Ngannou, est-ce que vous êtes surpris? Est-ce qu'il peut devenir tout simplement le poids lourd le plus puissant au monde? On se pose des questions sur sa technique, mais on a vu que par exemple avec le dernier combat, là, il avait clairement battu son adversaire, mais bon, qu'il y a eu peut-être un petit arrangement entre amis là, au niveau des arbitres.
il lui faut du travail, il lui faut du temps. Mais tout est possible, pourquoi pas?
Et ça ne surprend pas qu'il arrive à ce niveau-là?
Rien n'est plus surprenant aujourd'hui. Regardez ce qu'il a fait face à Tyson Fury.
Exactement, oui. Oui, mais parce que les spécialistes, bon, moi je n'en suis pas un, mais remarque quand même qu'au niveau technique, Francis Ngannou a quand même des choses beaucoup à apprendre par rapport à un Fury.
Il a beaucoup de choses à apprendre, mais je veux dire, regardez ce qu'il a fait. Il l'a fait coucher.
Oui, bien sûr.
Maintenant, il a donné un knockdown. Et
Ok.
c'est ça qui a montré effectivement que Ngannou avait plus de potentiel que l'on pensait.
Et est-ce qu'il a une
Après,
chance contre Anthony Joshua cette fin de semaine?
moi, je lui souhaite bonne chance. Je pense que tout est possible aujourd'hui. Comme je dis, la boxe d'aujourd'hui n'est pas celle d'avant. Mais non, aujourd'hui, c'est money, 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 money.
Absolument.
Pas de
Allez,
business.
il nous reste environ 1 minute. Je vais vous poser comme ça 2 questions qu'on va résumer. Comment ça se passe à Montréal? Parce que Montréal, c'est une terre de boxe. Il y a beaucoup, beaucoup de jeunes. Je me rappelle de comment il s'appelle le boxeur d'origine haïtienne là. Son nom m'échappe. Qui a réussi pendant plusieurs années. Pardon?
Adonis Stevenson.
Ou non, pas Stevenson, l'autre. Il est plus jeune. J'oublie son nom. Ça m'échappe. J'aurais dû le noter quelque part avant de faire cette interview.
Haïtien?
Non, non, c'est, je pense que c'est Jean-Baptiste ou quelque chose comme ça.
Jean-Pascal?
Jean Pascal, voilà, Jean Pascal. Bon, à Montréal, il y a des grands, grands boxeurs, mais comment ça se passe pour vous? Combien de boxeurs vous entraînez? Et est-ce que vous avez pour
Non, je
objectif
suis
de
pas
pousser
en fait.
certains? Oui.
Je suis un centre de formation
D'accord.
et je suis coach en développement personnel,
Ah, ok.
mental et motivation. Je
Très,
suis
très bien
beaucoup
ça.
plus dans la formation,
Ok.
dans le coaching mental, que la boxe en elle-même.
Ah.
Là, je pars cette année pour être organisateur d'événements de boxe à Montréal.
D'accord. Ok.
Voilà. Donc, je suis en quelque sorte un entrepreneur.
Ok. Est-ce que vous pouvez me donner votre page Facebook, les réseaux sociaux pour qu'on continue de vous suivre?
Le ring,
Ah, ça s'appelle le
R-E-I-N-G.
ring. Ok.
R-E-R-I-N-G.
Ok, ça c'est sur Facebook, sur Twitter.
Facebook, Instagram, pour l'instant. On n'appelle pas
D'accord.
Twitter.
Ok, allez, un dernier mot pour la communauté camerounaise de Toronto, en quelques mots pour conclure cette entrevue.
Soyez attentifs au combat de Céline Dubé et Francis Danou et soutenez les pour leur victoire.
Bien sûr. En tout cas, ça a été un plaisir de se parler aujourd'hui, là, Stéphane. Je rappelle que c'est Stéphane Malénou, ancien boxeur professionnel, ancien champion, aussi bien en Afrique qu'en France, qui était avec nous dans Cédric du Sport pour cette interview exclusive où on a parlé des futurs combats pour cette fin de semaine qui impliquent entre autres Cédric Doumbé et Francis Ngannou. Et ça a été vraiment un plaisir. Franchement, Stéphane, j'espère qu'on aura encore l'occasion de se parler parce que c'était très agréable et on a appris beaucoup de choses.
Le plaisir est partagé, Cédric. Merci de m'avoir permis d'avoir cette interview aujourd'hui. Ça fait
Merci.
toujours plaisir d'avoir des membres de la communauté qui s'intéressent à notre sport.
Merci beaucoup.